Radio Campus Tour, 99.5 FM.
De retour sur Radio Campus Tour 99.5 FM en direct du Festival Quartier Libre sur l'île aux Cars pendant 2 heures. Je me tourne encore une fois vers Samuel, mais un autre Samuel. Salut Samuel, le deuxième.
Salut.
Samuel, alors tu représentes, tu es président de l'association Player Up, c'est ça ?
Tout à fait.
Alors Player Up, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que tu peux nous en parler brièvement ?
Ouais. Alors, Player Up, donc c'est une association qui propose des temps conviviaux autour du jeu vidéo. Donc, que ce soit des jeux en fait bien rétro, donc anciens, du récent, et c'est de partager en fait du temps.
D'accord. Qu'est-ce qu'une association fait ici finalement sur le festival Quartier Libre ?
Alors,
parce qu'on peut se demander qu'est-ce que les jeux vidéo font dans un festival.
Alors, dans un festival, les gens en fait aiment bien se rencontrer, profiter, discuter, échanger en fait du temps. Et c'est aussi le but en fait de l'association Player Up, c'est mettre en place en fait du jeu vidéo. Donc c'est un outil culturel en fait comme un autre. Et justement en fait c'est échanger. Donc beaucoup de gens en fait aujourd'hui jouent aux jeux vidéo donc depuis qu'Internet en fait a envahi les salons. Mais par Internet, on va jouer avec un casque, avec un micro, etc. On va pas avoir en fait un vrai lien avec les gens, sauf bien sûr si de temps en temps t'invites un pote, des amis, etc. Pour pouvoir jouer. Mais ça peut être aussi en fait un outil pour échanger avec des gens qu'on connaît pas du tout. Donc l'ambiance festival en fait qu'on trouve aussi aujourd'hui.
Est-ce que vous pouvez nous raconter le stand, votre stand aujourd'hui? Il y a de la réalité virtuelle aussi?
Ouais, donc on propose de la réalité virtuelle sur Super Hot, donc sur la PlayStation 4, qui est un jeu qui est assez sympathique justement pour découvrir ce type de nouvelles technologies, et où en fait on incarne un personnage, on va pouvoir en fait, c'est un jeu en fait, on va dire un FPS un petit peu classique, donc à la première personne, sauf qu'on va incarner directement le personnage et on va pouvoir taper du poing. On a une manette en fait dans chaque main et on va pouvoir l'incarner vraiment.
Donc les personnes qui sont ici, elles peuvent venir tester au stand, hein, je sais pas si on peut appeler ça un stand, mais sous le petit chapiteau dans laquelle il y a les consoles. Qu'est-ce que vous avez comme console là présente aujourd'hui? Parce que c'est aussi des anciennes consoles, c'est pas que les dernières générations.
Voilà. Bah en fait, c'est qu'on considère qu'un jeu vidéo, s'il était bon à l'époque, il sera toujours en fait aujourd'hui. Dans tous les cas, en fait, on s'éclatait dessus en fait quand on était gamin. Donc pourquoi on pourrait pas s'éclater encore aujourd'hui? C'est aussi un moyen de mettre en avant le patrimoine en fait de l'association. On considère ça vraiment comme un patrimoine culturel. Et donc on a la Mega Drive. Donc avec Street of Rage, on a de la PlayStation 2, on a de la Wii U aussi, donc une console, là on peut mettre jusqu'à 8 joueurs, même 9 pardon. Donc une console Nintendo très familiale, donc on essaie de s'adresser aussi à un maximum en fait, de public. Donc adultes, parents, enfants, et c'est partager en fait du temps. C'est, par exemple aussi c'est intéresser certains parents qui voient un petit peu le jeu vidéo de loin, qui pratiquent pas vraiment. Et c'est jouer en fait avec leur enfant et qui découvrent aussi au passage qu'est-ce que leur enfant en fait peuvent avoir, ce qu'ils peuvent trouver en fait de plaisant en fait dans le jeu vidéo.
Vous, quand vous étiez plus jeune ou étudiant même, est-ce que vous étiez un fan absolu de jeux vidéo? Est-ce que vous avez tout le temps joué? Comment vous êtes arrivé finalement à cet univers?
Alors, j'ai découvert le jeu vidéo en fait avec la première Nintendo, donc la NES. J'ai eu à partir de 7-8 ans, je crois, donc un Noël comme beaucoup de gamins. Et j'ai découvert avec. Donc j'avais Super Mario Bros.
Le référence.
Avec le Duck Hunt, où on jouait justement avec un petit pistolet et qu'on tirait sur la télé. Et après, au fur et à mesure, j'ai eu d'autres jeux. Et je suis un petit peu aussi de cette génération où justement les consoles n'étaient pas connectées. Et si on voulait jouer avec un pote, il fallait l'inviter. Donc c'était.
Mais c'est vrai que ça
cette ambiance-là, en fait.
Ça a largement évolué aussi le monde du jeu vidéo, et ça a très vite aussi évolué en l'espace de 10-15 ans. C'est...
Après, je vais pas non. Du moins, je décris pas en fait les nouvelles pratiques, hein, mais c'est que, disons que le jeu vidéo aujourd'hui a évolué, il y a des nouvelles façons de jouer en fait qui existent, donc on peut les mettre en avant, mais il faut en plus en fait aller à la rencontre des gens justement pour leur montrer qu'il y a toujours possibilité de jouer de cette façon dont on faisait il y a 20-30 ans. L'ambiance arcade, on va dire, d'il y a des années 80-90, même avant.
Mélissa, t'as une question, vas-y,
alors,
je t'en prie.
Alors, en fait, à vous écouter, t'es en train de nous dire que le jeu vidéo, ça peut être considéré déjà comme une pratique culturelle autant qu'une autre, et aussi que c'est un vrai travail sur le lien social. Alors finalement, est-ce qu'on peut considérer, de ton point de vue, que les jeux vidéo... Ah, on met le micro en plein dans la bouche, que les jeux vidéo ont finalement la même fonction que les jeux de société?
Ça reste un jeu, donc oui. Voilà. En fait, le jeu vidéo, en fait, c'est juste un autre média. Un jeu de plateau, un jeu de cartes, etc. Si on a un autre, c'est une autre façon de jouer, mais ça reste du jeu. C'est aussi une autre manière de raconter en fait une histoire. Je fais souvent le comparatif, par exemple, avec le cinéma, où on va raconter en fait une histoire, on va être spectateur, on peut être pris dans une histoire. Et le jeu vidéo, par sa manière en fait d'emmener en fait l'histoire et la façon de jouer, va nous permettre d'incarner le personnage et d'être plus acteur. Donc c'est il y a aussi ce côté-là.
Alors la question. Et peut-être un peu, enfin je sais pas d'ailleurs, le sport et le jeu vidéo, on parle souvent du e-sport en ce moment, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que le jeu vidéo peut vraiment être considéré comme un sport? Et si oui, dans quelles circonstances et dans quel domaine?
Je pratique pas le jeu vidéo en fait à titre sportif, donc je vais avoir, étant pas en fait dans le milieu, je vais avoir en fait un point de vue en fait un peu distant. Après, je pense que oui, ça peut être en fait un sport. Par exemple, j'ai beaucoup joué en fait à StarCraft et j'ai souvent en fait fait le parallèle entre StarCraft et le jeu d'échecs. Où le jeu d'échecs, en fait, aujourd'hui, beaucoup de personnes le considèrent comme un sport intellectuel où on va avoir les plus grands champions du monde qui vont se rencontrer. On a beaucoup parlé aussi ces derniers temps du jeu de Go,
oui.
Donc qui est aussi en fait un sport. Mais moi, je le comparais plus en fait vraiment un sport intellectuel où on va demander en fait énormément de réflexes, par exemple.
Avec entraînement. Parce que avec sport entraînement. Aussi, il y a cette dimension d'entraînement pour arriver à la performance.
Oui, c'est des joueurs en fait qui passent beaucoup de temps en fait sur le même jeu, à perfectionner en fait leur stratégie en fait, etc. Le seul truc que je souhaite en fait à ces gens-là, c'est que justement, ça reste un plaisir. Parce qu'on parle avant tout en fait de jeux vidéo et il faut que le jeu vidéo justement soit un moment en fait de récréation, de partage, etc. Donc j'espère que les gens justement qui pratiquent le jeu vidéo, du moins le e-sport, le font aussi avec
reste
plaisir.
Dans le plaisir.
C'est
ouais.
Ça.
Mélissa.
Est-ce que vous avez ou est-ce que vous imaginez faire un jour des ateliers de création de jeux vidéo? Est-ce que c'est un truc qui pourrait vous intéresser avec l'idée d'être ensemble et de fabriquer quelque chose ensemble?
Alors, fabriquer un jeu vidéo, donc ça demande déjà énormément en fait, de compétences, c'est pas impossible. Là, ma connaissance, il n'y a pas de membres en fait, de l'association qui sont dans le milieu, du moins qui sont dans la conception de jeux vidéo, de création, etc. On a quelques personnes qui sont électroniciens, qui sont développeurs, mais plus sur logiciel, web et compagnie, mais vraiment pas spécifiquement sur la création de jeux. Par contre, il y a par exemple toujours possibilité de créer des petits ateliers, de fabriquer des bandes d'arcade. Aujourd'hui, il y a des outils en fait, qui ne coûtent quasiment rien, où on peut fabriquer des bandes d'arcade avec de l'émulation. Donc, l'émulation, c'est simuler le fonctionnement d'une vieille console sur un matériel en fait un peu plus récent. Donc c'est fabriquer des petites bandes d'arcade dont on fabrique en fait le caisson, on va intégrer un écran dedans. On peut aussi c'était à voir aussi pour l'année. J'ai réfléchi par exemple pour l'année prochaine, c'était de par exemple utiliser, récupérer des petites tables où on va y mettre en fait justement une petite machine, un écran et avoir en fait une petite table basse avec des joysticks et compagnie. Et c'est aussi par exemple créer du mobilier, parce qu'il y a beaucoup de gens par exemple qui sont fans de jeux vidéo et dont la déco de leur appartement par exemple est très très pixelisée, il y a des jeux vidéo partout, etc. Bah, pourquoi pas aussi des meubles, c'est pas impossible, et des meubles interactifs.
Vous parlez aussi des risques, prévenir des atouts et des risques des jeux vidéo. Est-ce qu'on peut l'évoquer un peu le côté risque du jeu vidéo?
Ça peut être en fait comme n'importe quelle pratique. Par exemple, on avait parlé en fait beaucoup du cinéma en fait à une époque avec les films d'horreur qui allaient rendre en fait les enfants violents en fait et compagnie. Donc ça dépend le temps en fait qu'on va y passer. Ça, il faut qu'on à partir d'un certain âge, du moins à partir de 12-13 ans, on peut éventuellement commencer à faire certains jeux plus immersifs. Et en fait, c'est cette question-là. En fait, il faut que la personne, donc l'enfant, donc surtout déjà l'enfant dans un premier temps, puisse différencier en fait la réalité du virtuel. Donc, que ce soit en fait dans un film ou un jeu vidéo, donc on l'a bien vu, en fait, il y a toujours des petits macarons, on appelle ça les Peggy, où on va dire bah voilà, ce jeu là, ce film là, tu peux pas le regarder, c'est à partir de tel âge. Enfin, donc déjà c'est la prévention pour les enfants. Dans un premier temps, c'est expliquer par exemple pourquoi tu peux pas faire ce jeu là, pour quelle raison, donc que ce soit pour le contenu, pour la manière de jouer. Ça peut avoir la prise en main peut être assez compliquée, mais il y a déjà ça. Et aussi c'est de la prévention auprès des parents. Beaucoup de parents, comme je disais tout à l'heure, des fois qui pourraient être un petit peu inquiets autour du jeu vidéo, qui voient ça en fait un petit peu de loin. C'est par exemple les faire jouer par les jeux vidéo, c'est leur montrer en fait comment on choisit un jeu dans une boutique. Par exemple, quel jeu en fait conviendra en fait à votre enfant. Après, le truc aussi, c'est qu'on peut pas tout contrôler. Je pense personnellement en fait à la maison. Si par exemple il y a le petit copain en fait de votre enfant qui a décidé de prêter les plus décriés, par exemple GTA, qui est un PEGI 16, 18, je crois. Eh bien, on pourra pas en fait l'interdire, mais c'est aussi inciter en fait les parents en découvrant en fait au passage le jeu vidéo, en fait à mieux parler de jeu vidéo et pourquoi en fait le contenu en fait ne convient pas. Donc les enfants aimant bien braver en fait l'interdit, c'est déjà en fait en discuter en fait en amont, et comme ça ils comprennent aussi pourquoi, et puis après libre à lui en fait d'enfreindre la règle ou non.
Merci Samuel, je le rappelle, vous êtes président de Player Up, donc une association tourangelle sur les jeux vidéo. Où est-ce qu'on peut vous trouver en dehors du festival Quartier Libre?
Alors on fait régulièrement en fait des soirées, donc une fois par mois, donc à Courteline, donc l'association Courteline. Qui aura lieu, donc là la prochaine, ça sera vendredi à partir de 20h. On sera au Festival Manga sur Loire le 21, donc à Mont-Louis. Donc là c'est pour les dates les plus proches. Sinon on a aussi en fait un Facebook, on peut trouver assez facilement
sur la page Facebook Player Up.
Il faut chercher l'association Player Up et comme ça vous aurez tous les événements.